BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'heure H. Deux invités justement pour parler de cette conjoncture, de la consommation qui se dégrade avec des perspectives qui ne sont pas très gaies, notamment pour le deuxième trimestre. Mon invité dans un instant, c'est Dominique Schelcher. Il est président de Sustemu. Évidemment, on reviendra sur la polémique sur les masques. Elle est en train de se calmer. Comment ça se passe dans les grands magasins et dans les magasins Sustemu? Ensuite, c'est Didier Kling, qui est président de la Chambre de commerce de l'Île-de-France, qui sera avec nous. On parlera de la charte sur les transports qui doit être signée aujourd'hui. Comment peut se passer le déconfinement en Île-de-France? On viendra aussi sur la question du télétravail et puis sur l'allègement de charges. Mais pour l'instant, on passe à l'actualité. Toute l'actu est apportée par Audrey Maubert. Bonjour Audrey.
Bonjour Edwige, bonjour à tous. Un point d'étape sur le chômage partiel. Cela concerne désormais plus de 12 millions de salariés, a confirmé ce matin Muriel Pénicaud. La ministre espère avoir bientôt une décrue. Elle précise toutefois que le chômage partiel à taux plein sera maintenu dans les secteurs restés fermés. Emmanuel Macron doit lui dévoiler les premières orientations d'un plan pour la culture aujourd'hui. Un plan très attendu par un secteur complètement à l'arrêt qui fait vivre 1,3 million de personnes. Alors que Jean Castex, le monsieur déconfinement du gouvernement, prévoit quelques jours de calage après le 11 mai, selon ses termes, l'Allemagne, elle, l'accélère. Elle devrait autoriser dès aujourd'hui la réouverture de tous les magasins et écoles pour le mois de mai, même relancer son championnat de football. Pas une surprise, mais bien une confirmation. La dégradation record de l'activité dans le secteur privé en zone euro, en France, l'activité du secteur des services a connu une chute sans précédent en avril du fait du confinement et de l'arrêt de nombreuses activités. Et puis, ce tableau, hein, par ailleurs, de l'année dressé par la Commission européenne, elle s'attend à une récession de 7,7% dans la zone euro, une récession historique avant un rebond de 6,3%. En 2021. Quant à la France, Bruxelles prévoit une chute du PIB de 8,2%, un déficit public de 9,9%. L'actualité également, c'est Amber qui n'exclut pas de se renforcer au capital de Lagardère. C'est ce que vous précisez ce matin sur BFM Business. Edwige, le fondateur du fonds Amber Capital, ne prévoit pas de vendre sa participation dans Lagardère et n'exclut pas au contraire de se renforcer au capital du groupe au lendemain d'une AG durant laquelle les actionnaires ont repoussé la nomination de nouveaux administrateurs. Le poids de la crise sur les résultats de Crédit Agricole, un bénéfice trimestriel en repli de plus de 16%, la banque a presque triplé ses provisions pour risque de crédit, justement pour faire face à la crise. UniCredit a, elle, enregistré une perte nette au premier trimestre de 2,71 milliards, beaucoup plus qu'attendu, de quoi peser sur tout le compartiment bancaire. On le suivra tout au long de cette journée. Enfin, un modèle remis en cause par la crise, véritablement, Airbnb va licencier un quart de ses employés dans le monde, 25% de ses effectifs, de ses 7500 employés. À la mi-journée, bien sûr, le CAC 40 et ce léger recul de moins 0,08% à 4479 points.
Merci Audrey, Audrey Maubert. Dans un instant, c'est Dominique Schelcher, le patron de Sustemu, qui est avec nous.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est donc Dominique Schelcher, le président de Sustemu. Merci d'être avec nous. Bonjour. Beaucoup de questions à vous poser, bien sûr, sur la consommation, sur le télétravail, sur les primes qui sont versées à vos salariés, puis bien sûr, la polémique sur les masques. Je voudrais commencer peut-être sur le niveau de consommation. Est-ce que ça se tient? On a vu que les perspectives de l'Union européenne, la Commission européenne, sur les perspectives françaises sont quand même très inquiétantes. Est-ce que vous partagez les mêmes craintes sur le pouvoir d'achat des Français, Dominique Schelcher?
Bien sûr, je partage bien évidemment ces craintes sur le pouvoir d'achat dans les semaines et dans les mois qui viennent. Bien évidemment, pendant la période de confinement, l'activité du commerce alimentaire s'est maintenue puisque les gens étaient à la maison, les cantines étaient fermées, les restaurants étaient fermés, donc il a fallu nourrir la famille et pendant cette période, l'activité s'est maintenue avec des éléments contrastés. Hein. Moi, je vous rappelle que chez Sustemu, nous avons par exemple de nombreux magasins saisonniers sur les côtes de France. Ces magasins, par exemple, connaissent des chiffres très difficiles. Maintenant, la question est celle de l'après-confinement. Et là, effectivement, les perspectives sont très préoccupantes puisque on peut s'attendre probablement à une progression forte du chômage. D'ailleurs, les chiffres du mois de mars étaient déjà très clairs. Donc, qui dit chômage dit impact sur le pouvoir d'achat et donc sur la capacité de consommation de nos clients. Donc, nous sommes tout à fait dans l'attente de voir comment les clients vont se comporter à partir du 11 mai et dans les mois qui viennent, et nous en sommes effectivement très préoccupés.
Donc vous attendez quand même à une baisse de la consommation des Français, notamment dans vos magasins, en fait, c'est ça que vous nous dites, Dominique Schelcher?
Je ne vous ai pas entendu, Madame Chevrillon.
Pardon, je disais, vous attendez donc à une baisse de la consommation des Français et donc une baisse d'activité dans vos magasins?
C'est possible. Je pense que nous allons être confrontés à deux France. Une France qui a pu, pendant ces deux mois de confinement, économiser une partie de son revenu. Le dernier chiffre qu'on connaissait, c'était 55 milliards d'euros économisés par un certain nombre de Français. Mais beaucoup d'autres qui sont d'ores et déjà en difficulté. Les demandes d'aide alimentaire se multiplient aux quatre coins de la France. Et donc, pour cette population, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, la problématique des distributeurs et de Système U dans les semaines qui viennent va être de résoudre cette équation, à la fois de répondre aux attentes des personnes qui ont pu économiser un peu, et surtout de l'autre, répondre aux attentes de pouvoir d'achat et sur les prix d'une autre partie des Français. Et nous avons d'ores et déjà pris des initiatives, d'ailleurs, chez U. Nous avons 5000 produits U à prix bloqué jusqu'à la rentrée. Et depuis quelques jours, nous proposons chaque semaine 6 fruits et légumes à prix coûtant, fruits et légumes d'origine française.
Encore une question avant de passer justement, et vous avez raison, les prix augmentent, on le voit tous. Est-ce que vous avez des magasins de Système U qui sont en difficulté?
Aucun magasin de Système U pendant la crise n'a fermé. Tous nos magasins ont pu tenir. Globalement, le réseau se comporte bien, ça va, mais un certain nombre de magasins, alors les plus grands, parce que pendant la période de confinement, on est allé faire ses courses en proximité. Donc quelques grands hyper ont connu des reculs de chiffre d'affaires. Et puis, je voudrais surtout parler d'un certain nombre, je l'ai dit, de magasins saisonniers sur la côte atlantique, sur la côte sud, des magasins qui, à Pâques, au mois de mai, ont l'habitude d'accueillir les Parisiens, un certain nombre de gens, ils n'ont pas eu ces clients pendant cette période-là. Et là, on a eu des reculs qui ont pu atteindre des chiffres de moins 50%.
D'accord. Comment ça va se passer le déconfinement chez Système U?
Écoutez, depuis le début de cette crise, nous n'avons jamais arrêté notre activité. Et très rapidement, nous nous sommes équipés pour accueillir nos collaborateurs et les clients en toute sécurité. Donc pour nous, le 11 mai est simplement la suite logique de cela, avec toujours le respect des gestes barrières, toujours les gestes de prévention, et ça se traduit notamment dans nos magasins par un filtrage à l'entrée pour s'assurer qu'il n'y ait pas de promiscuité et que les clients et notre personnel puissent travailler et les gens faire leurs courses en toute sécurité.
Ouais. Alors, la hausse des prix, vous l'avez mentionné, Dominique Schelcher, on voit bien qu'il y a une hausse des prix quand même assez forte, que ce soit UFC Que Choisir, que ce soit aussi les Français eux-mêmes qui balancent en disant, regardez, voilà, la tomate, elle valait tant, maintenant elle vaut deux fois plus. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord, peut-être, j'en sais rien, faire des mea culpa au-delà des prix bloqués dont vous parliez là, est-ce que vous n'avez pas quand même profité de cette circonstance?
Bien sûr que non. Les chiffres sont très clairs. Quand on prend les chiffres de l'INSEE ou des grands cabinets d'analyse, les produits consommation...
C'est bon, parce qu'ils sont très pragmatiques.
Alors attendez. Oui. Oui, mais je vais vous dire. Les produits de consommation de base n'ont pas augmenté entre le début de l'année et cette période-là. Donc, les produits de grande consommation, pas de sujet. Par contre, il y a effectivement un sujet sur les fruits et légumes. Mais pourquoi? Tout simplement parce que, en accord d'ailleurs avec le monde agricole, avec les confrères, nous avons tous décidé de privilégier pendant cette période les produits d'origine française. Mmh. Et c'est vrai qu'une tomate française qu'une fraise française est sensiblement plus chère qu'une fraise espagnole ou une tomate espagnole, par exemple. Et donc, c'est ce type de prix-là qui a pu donner l'impression que, mais en réalité, il n'y a pas eu de mouvement massif.
Honnêtement, et je vais même vous dire honnêtement, il n'y a pas d'abus, ou une récupération un peu légitime aussi, hein?
Non, la consigne qui a été donnée dans notre groupement est très claire, c'est répondre aux attentes de pouvoir d'achat des Français. Alors, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas ponctuellement pas un abus, mais la consigne est très claire chez nous. Et après, je vais vous donner une information. Si on avait mesuré l'évolution des prix aux fruits et légumes l'année dernière, on aurait probablement eu le même constat. Pourquoi ? Parce qu'en début de saison, souvent, nous démarrons avec les fraises étrangères quand il n'y en a pas encore en France, et donc à un coût moindre, et ensuite on bascule sur la fraise française. Et donc entre les premières fraises et les fraises françaises, il peut y avoir une augmentation, mais c'était exactement la même chose l'année dernière. Maintenant, ce qui compte à l'avenir, c'est d'être extrêmement vigilant, de continuer notre politique comme on le fait chez EU, fruits et légumes à prix coûtant 6 par semaine chaque semaine, et puis de continuer à privilégier les produits d'origine française pour soutenir l'activité économique en France, soutenir le monde agricole, soutenir les producteurs français.
Oui, ça, il faut dire, c'est aussi une tendance que vous avez mise en place depuis longtemps chez Système U. Alors, les masques, la polémique sur les masques. Donc, à part depuis le 4 mai, vous en avez vendu. Vous avez annoncé qu'une quinzaine de millions de masques chirurgicaux pour se protéger du coronavirus seraient vendus dans les magasins. Où est-ce que vous en êtes? Et d'abord, cette polémique, vous l'avez vécue comment, Dominique Schelcher?
Ben écoutez, cette polémique a agité tout le week-end, mais pour moi maintenant, elle est close. Qu'avons-nous fait dans cette histoire ? Nous avons répondu à la demande du gouvernement de mettre en vente, pour le plus grand nombre de Français, des moyens de protection, donc des masques. Cette demande, nous l'avons eue concrètement le 24 avril dernier, dans le cadre de nos réunions ministérielles habituelles avec les membres du gouvernement.
Oui, ça a été annoncé depuis ici même, du reste. Oui.
Depuis cette date, nos acheteurs ont été mobilisés pour nous procurer des masques. Ces masques vont arriver progressivement au mois de mai. Et concrètement, chez Système 1, nous avons démarré la vente donc lundi dernier en mettant à disposition des clients en fait, une partie de notre stock initialement destiné à nos collaborateurs. C'est bien la preuve qu'il n'y avait pas de stock caché, qu'on a trouvé toutes les possibilités pour mettre en vente des masques dès lundi. Mais voilà, simple demande du gouvernement à laquelle nous répondons et cette polémique était tout à fait injustifiée.
Oui, mais la polémique, elle existe quand même parce qu'on a envie de dire, pas forcément par rapport à vous, mais c'est vous avez réussi à avoir des masques là où le public, l'État, le gouvernement ne réussissait pas à fournir aux soignants, à toutes les blouses blanches, à tous les gens qui en avaient besoin. Donc c'est sûr qu'il y a de quoi interpeller les Français en disant qu'est-ce qui se passe, quoi.
Je comprends l'interrogation, mais voyez, il n'y a pas de recette miracle chez nous non plus. Il y a encore énormément de magasins à ce jour qui ont des masques. Il y en a déjà les premiers qui sont en rupture. C'est bien la preuve que ce n'est pas tout de trouver des sources d'approvisionnement. Il y a aussi un grand sujet de logistique derrière tout ça. Vous savez, le produit masque est très pénurique actuellement. Tout le monde se bagarre. Tant qu'ils ne sont pas livrés dans nos entrepôts, on a toujours plein d'incertitudes de savoir est-ce qu'on va les recevoir, etc. Et une fois qu'ils sont dans nos entrepôts, il faut encore les livrer dans toute la France. Ouais. C'est une chaîne logistique
incroyable. Oui, mais l'État n'est pas capable de mettre en place cette chaîne logistique, en fait. C'est ça la question qu'on se pose. C'est pourquoi vous, le patron de Système U, vous y arrivez? Pourquoi l'État français n'y arrive pas depuis 2 mois? Ou 3 mois, même?
Ça, il faut poser la question au gouvernement. Moi, j'entends quand même que l'État a commandé 3 milliards de masques depuis le début de cette crise, que l'alimentation se fait. Écoutez, chacun fait son travail, nous avons fait le nôtre. Ça n'est pas simple quand un produit est tellement demandé dans le monde entier. Je pense que, en tout cas, nous avons fait au mieux et nous ferons tout pour continuer à proposer ces masques dans les prochains jours, sûr, et dans les prochaines semaines à nos clients.
Deux questions juste pour terminer. Vous en avez vendu combien ?
Alors, comme vous l'avez dit, c'est un peu plus de 10 millions de masques qui sont disponibles pour démarrer cette semaine. Donc, une première partie a été vendue, mais je dirais dans le calme. Il n'y a pas eu d'effervescence, pas de précipitation globalement. Ouais. Et le prix, c'est prix coûtant. Donc, entre 5,80 € et 6 €. La pochette de 10 masques.
D'accord. La prime, juste rapidement, la prime. Je posais la question à Yannick Jadot, le patron d'Europe Écologie Les Verts, qui a allumé, qui a dit, si c'était mieux, regardez, il verse même pas de prime aux salariés qui ont pris des risques en restant sur le terrain et dans les magasins. Vous lui répondez quoi ?
Merci de me donner l'occasion de répondre, puisque c'est vous qui lui aviez posé cette question. Je réponds que Yannick Jadot était très mal informé, puisque dès le 23 mars, j'avais informé et pris la parole sur le fait que nous donnons cette prime à tous nos employés de la logistique, c'est-à-dire environ 6 000 personnes, et elle sera versée au mois de mai à hauteur de 1 000 euros. Et j'ai lancé un grand appel pour que nos patrons de magasins indépendants, à qui il appartient de prendre cette décision, puissent aussi donner cette prime, et beaucoup l'ont déjà fait. Et le dernier sondage au sein de mon groupement, où il y a 1200 patrons indépendants, me dit que 90% des patrons vont donner cette prime en fonction de leurs moyens. Voilà, donc nos équipes ont été formidables pendant cette crise. C'est grâce à cette fameuse ligne 2 de la chaîne alimentaire a aussi tenu notre maillon, à nous en tout cas. Et donc, ces gens méritent évidemment récompense.
Merci beaucoup, en tous les cas, d'avoir répondu à nos questions. Merci Dominique Schelcher, le patron de Système U. Dans un instant, retour dans la capitale, en Ile-de-France, puisque notre invité, c'est Didier Kling. Il est président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Là, on parlera aussi un peu de l'état de santé du commerce à Paris, en Ile-de-France. Est-ce qu'il faut un allégement de charge ? La charte transport qui est signée aujourd'hui même. Tout ça, c'est à suivre dans l'orage.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Et on poursuit l'heure H presque spéciale déconfinement, hein, bien sûr, avec Didier Kling, qui est président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Île-de-France. Bonjour, merci d'être là. Beaucoup de questions à vous poser, notamment sur un peu l'activité en Île-de-France, le commerce, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'appuyer. Mais il y a quand même aussi une question, c'est de savoir, est-ce que l'Île-de-France est prête au déconfinement?
Bonjour. L'Île-de-France, elle a besoin et elle a envie du déconfinement. Elle en a envie parce que chacun d'entre nous, depuis cette semaine, nous sommes enfermés dans des lieux un peu exigus parfois, et puis que l'activité économique a besoin de reprendre normalement son cours. Après ça, est-ce que nous sommes prêts à ce déconfinement d'Île-de-France? Oui, pour autant qu'on ait notamment des situations de transport qui s'y prêtent. D'où l'intérêt de mettre les parties concernées autour de la table pour regarder comment organiser les transports en Île-de-France. C'est un sujet compliqué. Oui. Je rappelle simplement que les transports publics tous les jours, dans un jour ordinaire, c'est 5 millions de personnes.
Oui, 5 millions de personnes, c'est ce que disait ici même Valérie Pécresse en même temps. Donc, elle disait, on est prêt quoi, pour 1 million de personnes au plus. Vous signez aujourd'hui justement une charte sur le transport en Île-de-France avec un peu tout le monde autour de la table. Qu'est-ce qui vous paraît à vous important pour la Chambre de commerce ?
Ce qui nous paraît important, c'est à la fois de reprendre l'activité économique et en même temps de concilier avec les exigences sanitaires. Donc, c'est vrai que les transports publics, le 11 mai lui-même, ne pourront pas transporter, comme ils le font normalement, 5 millions de personnes, pour deux raisons très simples. La première, c'est qu'ils ne seront pas pleinement opérationnels. Aujourd'hui, ils sont opérationnels à 30% environ. Le 11 mai, ils seront entre 50 et 60%. Il faudra un mois pour arriver à 100% d'offres de services. Et puis, la deuxième difficulté, c'est que vous savez bien qu'à quelques heures, notamment, il y a une forte exiguïté dans les transports publics. Il peut y avoir 6 personnes par mètre carré. C'est absolument incompatible avec les exigences sanitaires. Il faudra donc diviser ce chiffre par 4 ou 5 environ. C'est la raison pour laquelle on aboutit à la capacité pour les transports publics de permettre un nombre de voyageurs compris entre 800 000 et 1 million environ. D'où l'intérêt des modalités d'organisation des transports qu'on devrait signer dans l'après-midi.
Mais qu'est-ce que vous redoutez le plus, vous, Didier Kling ?
Ce qu'on redoute, c'est deux choses. D'une part, que sur le plan sanitaire, les conditions soient pareilles, et que dans 15 jours, 3 semaines, on ait une deuxième vague de l'épidémie. Et ça, ce serait tragique. Ce qu'on redoute ensuite, c'est qu'il y ait une inquiétude telle que que le redémarrage, la sortie de crise économique puisse pas s'opérer. Or, on vit depuis 2 mois d'une situation qui n'est pas tenable sur la durée. Il faut donc essayer de trouver le juste chemin entre ces deux exigences.
Oui, bien sûr, on a l'exigence sanitaire et l'exigence économique. En même temps, on a l'impression quand même qu'il y a un discours du gouvernement qui est assez anxiogène parce que pas très très compréhensible. C'est-à-dire qu'on dit c'est le 11 mai, décision prise, le 7 mai, en l'occurrence ça sera demain, que vous avez Jean Castex, donc et le monsieur déconfinement qui dit tout à l'heure devant le Sénat que peut-être il y aura un reconfinement dans les prochaines semaines. Peut-être qu'on partira pas en vacances. Est-ce que vous comprenez un peu ce langage de cette communication du gouvernement où vous leur dites la clarifier, sinon ça va être une catastrophe économique ?
Je comprends que le gouvernement est embarrassé parce que nous sommes tous face à un virus dont on ne connaît pas exactement la formule, qu'on ne sait pas aujourd'hui ni soigner ni vacciner. Donc il y a une très grande inquiétude, et il faut, c'est son devoir, le gouvernement, les pouvoirs publics doivent protéger la santé des citoyens. Pour autant, encore une fois, le développement économique ne peut pas s'arrêter durablement ou alors on déboucherait sur une crise sociale derrière qui serait aussi très redoutable. D'où l'intérêt de mettre en œuvre tout ce qu'on peut pour parvenir à conjuguer ces deux extrêmes. C'est l'intérêt aujourd'hui de dire, par exemple en Île-de-France, il faut être conscient du fait qu'à peu près sur les 6 millions de salariés d'Île-de-France, 45% d'entre eux exercent des activités qui sont éligibles au télétravail. D'où l'idée de dire, prolongez le télétravail autant que vous le pouvez. Deuxième élément qui est apporté dans la discussion, dans le débat, c'est de dire, pour ceux qui doivent absolument se déplacer, il faut qu'ils aient sur place, sur leur lieu de travail, un espace suffisant pour éviter la propagation de l'épidémie. Et puis évidemment, se pose avec l'acuité qu'on connaît bien, les problèmes d'équipement sanitaire et notamment celui des masques sur lesquels la Chambre de commerce, à côté de l'État et du Conseil régional, est évidemment présente pour la distribution en faveur de l'ensemble des
entreprises. Est-ce que la Chambre de commerce, vous en avez acheté, vous ? Parce qu'après tout, la Chambre de commerce et l'industrie de Paris, vous avez un rôle clé en Île-de-France. Est-ce que vous en avez acheté, vous ?
Vous avez raison. Non, on n'en a pas acheté parce qu'on en produit nous-mêmes. On a une école, notamment, qui est une école superbe, qui s'appelle la Fabrique, qui dispose d'un nombre de machines à coudre et qui a donc la capacité de fabriquer des masques. De même qu'on a une autre école, qui est l'école des parfums, qui s'appelle l'ICIPCA, qui est en capacité de fabriquer du gel. Donc, on a la capacité de produire, mais davantage à usage interne, parce que les quantités sont insuffisantes.
Oui, mais moi, je pensais à l'usage externe.
Oui, on avait d'ailleurs des masques au tout début, qui étaient des masques qu'on avait gardés par précaution, qu'on a remis au personnel soignant et aux sapeurs-pompiers. Donc, aujourd'hui, pour les entreprises, les choses sont assez claires. Il y a d'une part la plateforme nationale, qui est maintenant opérationnel depuis lundi pour les PME et les TPE. Il y a deuxième étape du dispositif, la plateforme régionale, conseil régional, qui a acheté des masques, soit en France, soit à l'étranger. Et nous, à partir de lundi 11 mai, on aura, en accord avec le conseil régional, des stocks de dépannage qu'on est en train de répartir dans chacun des 8 départements qui dépendent de l'Île-de-France, de manière à ce que la petite entreprise qui est un peu en manque de masques puisse s'approvisionner sur des petites quantités. C'est notre rôle de chambre de commerce.
Important, c'est important de le préciser. Il y a combien d'entreprises ou de commerce, enfin industrie-commerce, qui ont demandé à faire profiter du plan de solidarité ou du plan de soutien avec des PGE, Didier Kling ?
Alors aujourd'hui, le chiffre, évidemment, il monte tous les jours. Les statistiques montrent que l'Île-de-France respecte à peu près sa proportion par rapport à l'ensemble des Îles-de-France. Vous savez que sur le chômage partiel, aujourd'hui, c'est plus de la moitié des salariés en France qui sont au chômage partiel. On a de fait nationalisé l'activité de travail. Ça ne peut pas durer très très longtemps.
Et sur le PGE, et sur les PGE, combien de demandes ?
Et sur le PGE, ça monte. Ce qui est difficile, c'est que les dossiers n'arrivent pas comme ils devraient. Pour une raison simple, c'est que les banques elles-mêmes sont totalement débordées. Il y a donc beaucoup de dossiers qui sont à l'instruction. C'est la raison pour laquelle, à notre demande, les dossiers d'instruction eux-mêmes et la procédure a été allégée la semaine dernière, puisque les banques ont des difficultés très simples. D'abord, tous leurs salariés sont pas présents au travail. Ils ont même des problèmes de garde d'enfants, de confinement. Et puis ensuite, ils ont nécessairement un nombre de dossiers qui est tel qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas les traiter. Donc, ils se sont engagés sur un délai de réponse de 5 jours, qui aujourd'hui n'est pas encore respecté, mais j'imagine que la situation va s'améliorer.
Oui, d'accord, ok, donc c'est un point important. Est-ce que l'allègement de charges, parce qu'il y a beaucoup de factures sont impayées, évidemment, en Île-de-France, l'allègement de charges, c'est quelque chose que vous réclamez, Didier Kling ?
Oui.
Pour les petites entreprises.
Sur les factures qui ne sont pas payées, il y a d'un côté le crédit interentreprise. Il n'est pas acceptable qu'une entreprise ne paie pas ses fournisseurs, puisqu'elle a théoriquement accès à tous les moyens de financement voulu. Pour autant, il y a des entreprises qui sont dans une difficulté telle que les reports de charges qui ont été imaginés avec un plan massif ne suffiront pas, tout simplement parce que ces entreprises ne pourront pas à la fois payer les charges de la période lorsqu'elles auront repris leur activité et en même temps payer les charges qui font l'objet des reports. D'où l'intérêt d'avoir des annulations de charges pour des entreprises qui sont très impactées, je pense par exemple au secteur de la restauration.
Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est le message que vous faites passer. Vous avez bon espoir, en tous les cas, qu'on vous dise « Ok, c'est bon ».
On a bon espoir. J'observe qu'il y a eu un plan massif pour traverser cette période de difficulté de 2 à 3 mois. Il faudra un plan massif, peut-être aussi important, ensuite pour pouvoir avoir une sortie de crise qui soit satisfaisante.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Didier Kling, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, donc qui s'apprête à vivre ce déconfinement et qui estime quand même que grosso modo, c'est prêt, qu'il y a une charte sur les transports qui va être signée. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de l'Orage. Rendez-vous demain à 8h15, justement, transport, le patron de G7, Nicolas Rousselet. Ensuite, je recevrai dans l'Orage Yves Perrier de Force Ouvrière et Alain Gravoin qui dirige une grosse entreprise avec des intermittents. On attend le discours d'Emmanuel Macron tout à l'heure sur l'industrie culturelle. Bonne journée.